Veuillez vous asseoir. Je rappelle à ceux qui m'écoutent sur Internet que la retraite du mois d'août est pleine et que j'ai des places pour les retraites de septembre, du 7 au 12 septembre, du 28 septembre au 3 octobre, également celle du 19 au 24 octobre. Je m'excuse aussi. Ces mêmes personnes qui attendent les vidéos sur Internet pour tous les problèmes techniques que nous avons eus jusqu'à présent. Bon, en principe, ça marche toujours quand on fait les essais, ça marche jamais quand malheureusement on en a besoin. Enfin, on fait un peu ce qu'on peut. Et je m'excuse aussi si la vidéo aujourd'hui sera mise en ligne tardivement, parce que la personne qui m'aide, cet ami d'Andorre qui m'aide à tout mettre sur YouTube, ne sera pas rentré avant tard ce soir, donc il ne pourra pas la mettre avant tard ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, pour ce sermon, je voudrais utiliser bien sûr l'évangile d'aujourd'hui et coupler l'évangile avec d'abord ce que nous dit le bréviaire d'aujourd'hui, puisque c'est surtout le bréviaire qui doit alimenter la prédication du prêtre. Et en même temps, ces deux grandes fêtes qui viennent de se passer, dont je n'ai pas encore eu le temps de vous parler, la fête du précieux sang, le 1er juillet, et de la visitation de la Sainte Vierge, le 2 juillet, l'Évangile nous raconte encore un acte extraordinaire de miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde corporelle, mais qui explique ce qu'il peut faire aussi sur l'âme. Si Dieu a une telle puissance sur les corps, bien, cela prouve qu'il peut aussi avoir une telle puissance sur les âmes. Il va nourrir 4000 personnes avec 7 pains et quelques poissons. Et il y a une phrase au début de l'évangile qui m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé. Notre Seigneur Jésus-Christ, en voyant cette foule qui le suit, il est en train de prêcher. Et il y a 4000 personnes qui le suivent, vraisemblablement ces 4000 hommes, plus toutes les femmes et les enfants, une grosse foule qui est là, qui le suit. Et il s'inquiète pour leur nourriture corporelle. Et d'ailleurs, cette inquiétude pour leur nourriture corporelle, il y a bien sûr une inquiétude bien plus grande pour leur nourriture spirituelle. Et là, cette phrase extraordinaire, Miseror super turbam, j'ai pitié de cette foule. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ a pitié des corps, pensons bien qu'il a encore plus pitié des âmes, puisqu'il est d'abord venu pour les âmes, pas pour les corps. De la même façon que si notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe des oiseaux du ciel pour les nourrir ou des fleurs des champs, à tel point que même Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas la beauté d'un lys des champs, eh bien pensons bien et comprenons bien que notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe encore une fois de ces créatures sans raison, mais va s'occuper d'une façon plus particulière, évidemment, des créatures avec raison. Notre Seigneur Jésus-Christ est un miséricordieux super turba, mais il a pitié de cette foule, il a pitié des pécheurs. Et il donne à ces pécheurs les grâces dont ces pécheurs ont besoin pour regretter leur péché. Première condition pour changer de vie, c'est regretter son péché, évidemment. Si on n'a pas de regret, s'il n'y a pas de contrition, il ne peut pas y avoir d'absolution. Et donc le bon Dieu va donner des grâces spéciales qu'on appelle des grâces actuelles qu'il donne même aux pécheurs, même aux gens qui vivent en péché mortel jusqu'au cou depuis des années et des années, eh bien il va leur donner des grâces spéciales pour qu'ils puissent précisément se sortir de ce péché. Il est intéressant de voir que précisément pour ce dimanche, le texte du bréviaire pour l'Ancien Testament qui est choisi est un texte du deuxième livre des Rois, je crois que c'est au chapitre 12. Où on raconte l'histoire de David qui vient d'offenser très gravement le bon Dieu. David a commis l'adultère avec la femme d'un de ses soldats, qui s'appelait Uri, le Hittéen. Et il va commettre l'adultère avec son épouse, avec l'épouse de ce monsieur. Et pour cacher justement son péché, parce qu'elle se retrouve enceinte de ses œuvres, eh bien il va faire tuer. Par le chef de son armée, il va faire tuer, demandant à Joab, le chef de son armée, de placer ce soldat dans la partie la plus combative de la bataille pour qu'il soit tué par l'ennemi. C'est exactement ce qui se passe. Donc David est coupable d'un péché d'adultère et d'un péché de meurtre. Pas rien, ça. Deux gros péchés graves, deux gros péchés mortels. Et que va faire le bon Dieu dans sa miséricorde? Il va envoyer un prophète, Nathan, qui va venir voir David pour le faire rentrer en lui-même. Il va lui expliquer une petite histoire, une petite parabole d'un monsieur qui un riche propriétaire qui reçoit un ami qu'il n'avait pas prévu, et cet ami doit manger. Alors le riche propriétaire va aller voler la brebis d'un pauvre qui n'avait que cette brebis pour vivre, et va la prêter pour nourrir son hôte. Évidemment, cela va faire bondir David. Et Nathan, le prophète, va lui dire: tu es cet homme. Tu es cet homme qui a pris la propriété du prochain. Et il va lui faire comprendre, par des paroles que le bon Dieu a mises sur ses lèvres, va lui faire comprendre la gravité de son péché. Et là, encore une fois, on voit la miséricorde du bon Dieu, parce que David va tomber à genoux, littéralement, et va prononcer cette phrase toute très courte: Peccavi Domino, j'ai péché contre le Seigneur. Et tout de suite, c'est la grandeur du roi David. En général, les rois, comme dit saint Ambroise, les rois, ils pêchent facilement, mais ils ont du mal à demander pardon pour leur péché. Les rois qui pêchent, ça arrive souvent. Les rois qui demandent pardon après leur péché, qui font pénitence de leur péché, ça n'arrive pas souvent. Eh bien, on voit très bien là la grandeur de David, qui non seulement ne s'offusque pas de voir un laïc, un simple prophète venir lui faire des reproches, mais qui accepte le reproche et qui change de vie. Et David va pleurer pendant toute sa vie son péché. Vous voyez, donc il faut mettre ces deux phrases en parallèle. Misereor super turbam, j'ai pitié de cette foule. Peccavi Domino, j'ai péché contre le Seigneur. Donc le bon Dieu est plein de miséricorde, a pitié de la foule qui regrette son péché. Misereor super turbam, j'ai pitié de cette foule. Si la foule prononce la même parole que David a prononcée, à savoir, j'ai péché contre le Seigneur. Et il faut comprendre ces choses-là, même parfois pour des gens qui sont restés très loin du bon Dieu pendant très longtemps. Le bon Dieu est prêt à pardonner, il pardonne tous les péchés à condition qu'on regrette son péché. Rappelez-vous les trois conditions pour que le bon Dieu puisse pardonner des péchés graves. Il faut d'abord regretter son péché, ça veut dire d'avoir cette douleur de cœur jointe à une ferme résolution de ne plus pécher, donc d'éviter les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Le bon Dieu demande aussi l'accusation de ses péchés, la réparation tant que faire se peut. Et s'il voit ces trois dispositions, l'accusation, la contrition et la réparation, le bon Dieu pardonne, comme il a pardonné à David. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement important de comprendre ces choses-là. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces grâces, elles viennent par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Et là, je voudrais utiliser un petit peu cette belle fête de la Visitation. Donc Notre-Dame est déjà Mère de Dieu. Donc le bon Dieu a sanctifié de façon extraordinaire la Très Sainte Vierge Marie, d'abord en lui donnant le privilège de l'Immaculée Conception qu'elle a eue au moment de sa conception dans le sein de sa mère, Sainte Anne. Mais en plus de ça, lorsqu'elle avait à peu près 14 ans, donc il va la sanctifier de façon encore plus extraordinaire en lui demandant de devenir la Mère de Dieu. Et donc la Très Sainte Vierge Marie, après avoir accepté par son fiat de devenir la mère du bon Dieu, va aller voir sa cousine Sainte Élisabeth. Et les pères de l'Église expliquent que la Très Sainte Vierge Marie va être l'instrument de la sanctification de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, lui, n'est pas Immaculée Conception, il est né avec le péché originel. Attention, il est né avec le péché originel, mais il va être sanctifié, purifié de ce péché originel dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth. Et les pères de l'Église expliquent que non seulement il va être purifié du péché originel, mais que le bon Dieu va lui donner dès ce moment-là, donc il est encore dans le sein maternel depuis 6 mois, le bon Dieu va lui donner la grâce de l'usage de sa raison. Il a eu l'usage de la raison, donc il a compris tout ce qui se passait autour de lui, il a compris déjà ce qui se passait. Et donc, notre Seigneur sanctifie la Sainte Vierge sanctifie Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, et la présence de cet enfant sanctifié dans son sein va sanctifier du coup Sainte Élisabeth. Et on peut dire qu'indirectement, Sainte Élisabeth va sanctifier son mari, Saint Zacharie. Et on voit très bien comment, justement, la Très Sainte Vierge Marie est toujours dans ce processus de sanctification. C'est pour cela qu'elle est considérée comme médiatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces arrivent par elle, y compris les grâces de conversion. Et donc, il faut savoir dans son âme, justement, c'est la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle soit le canal, en quelque sorte, par lequel les grâces du bon Dieu puissent passer. C'est un grand mystère, mais le bon Dieu a voulu donner ses grâces, non pas directement, il a voulu que ses grâces passent par sa mère. Pourquoi? Parce que c'est d'elle qu'il a reçu notre humanité. C'est d'elle qu'il a reçu notre humanité. Alors, il y a d'autres points, d'autres phrases qui nous aident aussi à comprendre, à comprendre bien, bien des choses. Les pères de l'Église nous expliquent pourquoi on a tellement besoin de la Très Sainte Vierge Marie, qui est celle qui nous amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Plus exactement, c'est elle qui nous apporte notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église ont un point, ils expliquent un point que j'aime beaucoup. Ils disent que l'homme est capable de se vendre, mais est incapable de se racheter. Comment l'homme se vend-il? L'homme se vend à chaque fois qu'il commet un péché. À chaque fois qu'un homme commet un péché grave, il va se vendre au démon, littéralement se vendre au démon. Et quand on se vend à quelqu'un, on devient esclave de la personne qui nous a acheté. Lorsqu'on se vend au démon par le péché grave, on devient esclave du démon qui fait de nous ce qu'il veut parce que justement nous lui appartenons, parce que nous avons mis notre volonté dans sa volonté. Puis une fois qu'il a attrapé cette volonté humaine, il ne va pas la lâcher. Et les pères de l'Église font remarquer, j'aime beaucoup cette phrase, il dit l'homme est capable de se vendre, mais est incapable de se racheter. Il ne peut pas se sortir des pattes du démon une fois qu'il s'y est placé volontairement. Et donc il faut que quelqu'un d'autre intervienne pour payer en quelque sorte la rançon de l'extérieur. Cette personne qui va payer la rançon de l'extérieur et donc racheter la liberté d'agir de la personne qui s'est placée volontairement dans la volonté du démon, cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser pour payer cette rançon. Quelle est cette rançon à payer? C'est son propre sang. Le propre sang de notre Seigneur Jésus-Christ devient la rançon qui est payée pour pouvoir justement sortir l'homme pécheur de l'influence du démon. Donc on voit comment le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est utilisé, encore une fois, à la personne qui va, en quelque sorte, on peut expliquer comme ça, venir apporter littéralement au démon ce sang rédempteur, c'est la Très Sainte Vierge Marie, puisque c'est elle qui a donné ce sang à son divin fils. Mais le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la croix. Donc le prix de notre rédemption, c'est ce sang. Donc en fait, ce que la Très Sainte Vierge Marie va venir présenter au démon, littéralement, c'est la croix sur laquelle son divin fils s'est allongé le jour du Vendredi Saint et tout ce sang qui découle de la croix. C'est ça le prix de notre rédemption. Le prix de notre rédemption, c'est la croix et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église ont une autre phrase que j'aime beaucoup. Ils disent que cette croix est un instrument soit un instrument de supplice, soit un instrument de salut, disent-ils. Supplice ou salut. Pour comprendre cette phrase, il faut l'associer à une phrase qui a été prononcée peu après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'avait dit Siméon, le vieillard qui a reçu l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, qui attendait, parce que le Saint-Esprit l'avait prévenu qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu entre ses mains le Sauveur du monde. Et il va dire à la Sainte Vierge, en prenant l'enfant, il va lui dire, cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël, et un glaive de douleur vous transpercera l'âme. La chute, c'est quoi? C'est la croix comme instrument de supplice. La résurrection, c'est quoi? C'est la croix utilisée comme instrument de salut. Donc, selon mes dispositions, soit je vais utiliser la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et son précieux sang comme instrument de salut pour ressusciter mon âme et aller monter vers le bon Dieu, soit malheureusement je vais rejeter cet instrument de salut, et du coup, je vais être obligé d'utiliser la croix et le sang rédempteur comme instrument de supplice. La croix élève ou écrase. Soit je l'accepte et je m'élève avec la croix, quand je serai élevé de terre, dit notre Seigneur, je tirerai tout à moi, soit au contraire, je refuse la croix et la croix me condamne. Mais il faut comprendre toutes ces choses-là. Il y a tellement de richesses dans tous ces textes de liturgie. On voit à quel point, dans sa sagesse, l'Église s'est associée à tous ces textes liturgiques, le bréviaire, les textes de l'Évangile du jour que l'on célèbre, et puis les fêtes qui tournent autour. Tout ça nous aide justement à comprendre toutes ces choses-là. Et tout part, évidemment, de rédemption. Notre-Dame est co-rédemptrice, elle n'est pas rédemptrice principale, elle est co-rédemptrice parce que le rédempteur principal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les protestants n'arrivent pas à comprendre ça, ils comprennent pas la dévotion de la Sainte Vierge parce qu'ils veulent aller uniquement au Christ. Mais le Christ, pour venir sur la terre, il a utilisé un instrument. Et cet instrument par lequel il a voulu recevoir son humanité, c'est la Sainte Vierge Marie, c'est sa mère. Il a voulu avoir une mère d'ici-bas. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Et donc, puisqu'il a tout reçu d'elle, au niveau humain, la divinité, évidemment, c'est la Sainte Trinité, mais l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ l'a reçue de la Sainte Vierge Marie. Et donc, il a voulu, en quelque sorte, pour la remercier d'avoir coopéré à ce mystère de l'incarnation, de façon extraordinaire, il a voulu qu'elle coopère non seulement au mystère de l'incarnation, mais aussi au mystère de la rédemption, parce que l'incarnation a pour but la rédemption. Donc, puisque Notre-Dame a coopéré au mystère de l'incarnation, elle va coopérer aussi au mystère de la rédemption. Et quand on comprend ces choses-là, cela doit nous donner en quelque sorte un amour absolument débordant pour la Très Sainte Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'on est sauvé. Certes, elle nous présente celui qui nous sauve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour nous sauver, notre Seigneur Jésus-Christ utilise un instrument, cet instrument, c'est Notre-Dame. Et donc, rien que cela doit nous mettre en nous un amour débordant pour la Très Sainte Vierge Marie. Et les pères insistent aussi beaucoup que le sang qui découle de la croix, il sort du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur ouvert sur la croix comme moyen extraordinaire, comme preuve extraordinaire de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Il est déjà mort, mais il trouve le moyen, même après la mort, d'en faire encore un peu plus. Et encore d'ouvrir son Sacré-Cœur après sa mort pour que nous puissions justement utiliser ce sang sacré. Les pères font des comparaisons magnifiques avec tout ce qui a annoncé justement ce Sacré-Cœur. La première comparaison qu'ils utilisent, c'est Adam, évidemment, qui vient d'être créé par Dieu. Et Dieu va ouvrir le côté d'Adam pour en faire sortir la première Ève. Et la première Ève, c'est à la fois la mère des vivants et la mère des morts. Ève est déjà, nous disent les pères, le symbole de l'Église. L'Église qui sort du côté d'Adam, c'est-à-dire l'Église qui sort du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image. Et malheureusement, cette première Ève, qui est la mère des vivants, va aussi devenir la mère des morts par le péché originel. Puisque c'est elle qui va pousser son époux, Adam, à commettre le péché de désobéissance, péché d'orgueil, en prenant le fruit défendu et donc tout perdre. La deuxième image que les pères utilisent, c'est l'image qui représente aussi l'Église, à savoir l'image de l'arche de Noé. L'arche de Noé qui représente l'Église. Et dans cette arche, il y a les personnes qui vont être sauvées. Noé, son épouse, ses trois enfants, Sem, Cam et Japhet, et leurs épouses respectives. 8 personnes, c'est tout. Bon, l'Église ne dit pas que tous les autres sont damnés, c'est pas ce qu'elle dit. Mais les seuls qui vont être sauvés physiquement parlant sont ceux qui sont dans l'arche, pour bien expliquer que l'arche représente cette Église hors de laquelle il n'y a pas de salut. Et qu'est-ce que va faire Noé? Il va ouvrir la porte de l'arche. D'abord, les pères de l'Église font remarquer que tous les animaux vont rentrer dans l'arche par la porte. Cela représente justement que tous les hommes sont tapés dans cette arche. Pour cela que le bon Dieu a voulu qu'il y ait des représentants de chaque espèce d'animal, chaque espèce de tous les animaux qui étaient sur la terre, chacune de ces espèces va être représentée dans l'arche. Et ensuite, par la même porte, il va faire sortir la colombe qui va ramener le rameau de preuve de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Cette arche qui flotte sur les eaux qui ont tué tous les hommes, cette arche représente l'Église. Et la vie qui rentre de nouveau par la fenêtre représente évidemment le Sacré-Cœur. Donc on voit que les trois étapes, si vous voulez, la création de l'homme avec Adam et Ève, Noé et l'arche de salut, et l'Église catholique et le Sacré-Cœur. Alors il nous faut, mes bien chers frères, bien comprendre toutes ces choses-là pour augmenter en nous d'abord l'amour de notre Sainte Vierge, l'amour de notre Rédempteur, évidemment, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, et en même temps le regret de nos péchés. Il faut que nous aussi nous puissions dire comme David, mais peccavi domino, j'ai péché contre notre Seigneur, j'ai péché contre le Seigneur. Et si je sais dire cette parole, j'ai péché, pardonnez-moi à mon Père parce que j'ai péché, alors le bon Dieu, dans sa miséricorde, va prononcer cette deuxième parole, miséreor super turbam, j'ai pitié de vous, j'ai pitié de cette foule. On ne peut pas séparer les deux choses. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse me pardonner mes péchés, il faut que je les regrette. Donc il faut demander, en ce temps liturgique, en cette période d'été où les péchés sont tellement répandus, hélas, tous les péchés de la chair, eh bien il faut demander au bon Dieu justement qu'il nous donne à la fois cette grâce de la contrition de nos péchés et à la fois cette grâce d'un grand, grand amour pour la Très Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est la personne qui nous permet justement d'atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons donc cette grâce de ne jamais perdre à la fois l'amour du bon Dieu et l'amour de sa très sainte mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.